C'est donc si passionnant, l'histoire.
C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
Le schisme.
Face à l'hémicycle, au centre duquel repose un volumineux Coran, un jeune officiant invoque Allah afin qu'il éclaire les travaux de l'Assemblée. Ce qui frappe d'emblée, c'est le nombre impressionnant de religieux qui déambulent dans cette enceinte. Ici, la prise du pouvoir par les religieux s'impose d'abord comme une évidence visuelle.
Prétendre que le gouvernement d'un pays doit être divin et passer par des formes républicaines, avouer que c'est la quadrature du cercle. En Iran, le suffrage universel désigne les 290 membres du Parlement, qui ont d'ailleurs moins de pouvoir que nos députés, et les 88 membres du Conseil des experts, qui sont censés veiller à la jurisprudence dans le respect des traditions juridico-religieuses. Mais c'est le Conseil des 12 gardiens de la Révolution qui trie, et sévèrement, entre les candidats, décidant qui peut se présenter devant les électeurs et éliminant évidemment les réformateurs. Les savants en religion sont là pour conjurer leur influence. Étrange histoire tout de même que celle du chiisme. Après les assassinats des imams Ali et Hussein, leurs successeurs s'étaient volontairement tenus hors de la politique. Puis, le 12e imam choisissant l'occultation et annonçant qu'il ne reviendrait qu'à la fin du temps, il a fallu compenser le vide qu'il laissait. Les chiites se retrouveront associés au pouvoir dès le 10e siècle dans une très vaste zone bien au-delà de leur aire d'influence habituelle. Et au 16e, recentrés sur l'Iran, ils se verront reconnaître comme religion d'État avec un ministère des affaires religieuses, donc bien avant le roménisme, qui amène à incandescence ce système des docteurs de la loi et achève le grand retournement du chiisme passé d'une polarisation spirituelle à une polarisation politico-juridique.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Bonjour à vous, Mohamed Ali Amir Moedzi. Vous êtes né à Téhéran, vous avez fait vos études dans un lycée français de Téhéran, vous êtes installé en France depuis bien longtemps. Et alors, votre vie, elle est consacrée à l'univers presque infini des histoires et des croyances du chiisme. Et le lundi, en Sorbonne, dans un lieu historique marqué par M. Massignon, par M. Corbin, vos grands prédécesseurs, Ismaélologie, voilà, oui. Vous enseignez devant 30, 40, 50 personnes passionnées par ça.
Oui, effectivement, j'ai l'honneur d'occuper la chaire d'islamologie classique de l'école pratique de hautes études, jadis occupée par mes respectables aînés, Louis Massignon, Henri Corbin et Daniel Gimaret, à qui j'ai succédé. Et donc, depuis presque 25 ans, Je m'occupe de l'islamologie et en particulier de l'islam chiite.
Alors l'islam chiite, c'est une imamologie. Vais-je réussir à le dire? Cette année au programme, c'est Ali,
oui,
premier imam, celui à qui le prophète a ouvert son manteau de façon très privilégiée, l'illogeant ainsi que ses deux fils.
Ali, cousin et gendre de Mahomet, réclame la succession en tant que proche parent du prophète. Un prophète dont les paroles, disent les théologiens chiites, désigne Ali comme seul légataire. La plus connue est le récit du manteau. Un jour, le prophète couvrit de son manteau sa fille, son cousin Ali et leurs deux enfants. Un acte qui symbolise pour les chiites la transmission du don prophétique à Ali et à ses descendants.
Ali dit, que la paix soit sur toi, ô envoyé de Dieu. Est-ce que tu me permets de me joindre à vous sous le manteau? Le prophète dit, que la paix soit sur toi, ô mon frère, mon régent, mon successeur et ma bannière. Je te le permets. Et Ali entra avec eux sous le manteau.
Un film de Mohamed Bahloul et Saïd Baktoui. Alors, l'Ali et ses fils, qui vont être ses successeurs, ont ce statut privilégié auprès du prophète. Vous insistez, première idée, le chiisme tel qu'il va se sédimenter peu à peu, eh ben, il précède le sunnisme. Il se constitue plus vite.
Oui, c'est-à-dire que ce qui constitue la première étincelle, je dirais, de la genèse du chiisme, a lieu juste après la mort du prophète. Donc, c'est-à-dire sur la question délicate de la succession du prophète. Donc, comme on vient de l'entendre, les chiites prétendent que Ali, donc gendre et cousin germain du prophète, est, chose importante, le père de sa seule descendance mâle, et était le seul successeur légitime du prophète. Et que les califes qui ont succédé au prophète ont en fait usurpé sa place, et donc ont arrivé au pouvoir à l'aide d'un véritable complot, d'un véritable coup d'État. Donc c'est pour cela que, si vous voulez, ce qui va devenir progressivement le chiisme constitue le premier courant politico-religieux de l'islam.
Le sunnisme est une réaction au chiisme.
Vous savez, c'est un peu la constante de l'histoire des religions, c'est-à-dire les courants qui sont progressivement considérés comme hétérodoxes, voire hérétiques, sont souvent plus anciens que ce qui va devenir l'orthodoxie et qui s'élabore très souvent comme une sorte de réaction à ces courants primitifs considérés peu à peu comme hétérodoxes.
Alors Ali, à la mort du prophète, voit 1, 2, 3 personne devenir calife à sa place. Il finit néanmoins par être calife, mais dans des circonstances extrêmement difficiles. Il sera assassiné en 661, et ce sera aussi le sort de son deuxième fils, le cinquième sous le manteau de Mahomet, Hussein, qui, lui, va mourir dans des circonstances tragiques et spectaculaires. Nous sommes à Karbala en 680, et 680, si on entend ce reportage de 1971, c'est là, maintenant encore.
L'imam Hussein, alors qu'il se rendait de Médine à Koufa avec toute sa famille, sous la seule protection d'une petite troupe, se trouva soudain assiégé à Karbala, en plein désert d'Irak, par toute une armée venue de Damas et condamnée, lui et les siens, à mourir de soif. Le respect, la crainte qu'inspirait à tous la personne de l'imam Hussein, retint un temps le massacre. Mais le dixième jour, un certain Chemr, sorti des rangs de l'armée adverse, égorgea l'imam. C'est ce qu'explique à sa manière ce vieux derviche. À Karbala, malheur. À Karbala, malheur. À l'instant même, lorsque sa hautesse rendit son âme à Dieu, un tumulte éclata dans les saints lieux de l'univers invisible. Les pauvres pécheurs poussèrent un gémissement vers le monde de la toute-puissance. L'imagination, la ferveur populaire ont amplifié chaque épisode du drame. Maintenant ce cri, j'ai soif, monte jusqu'aux étoiles dans la plaine de Karbala.
Un film de Jean-Claude Lubchansky, 1971, à Karbala, le souvenir du martyr d'Hussein, assiégé après avoir été assoiffé. À Najaf, le souvenir avec sa tombe d'Ali, le premier martyr. Dans le martyrologe chiite, les imams successifs doivent toujours mourir de mort non naturelle. Et leurs familles aussi peuvent être touchées, parce que dans le cas d'Hussein, épouse, enfant, frère, neveu, cousin, il va devoir marcher sur leur cadavre avant que lui-même soit foulé aux pieds par les chevaux. Va survivre sa sœur, qui va être enterrée, très important les tombes dans le chiisme, à Damas.
Oui, la Dame
Zainab. Un attentat
Zainab
vient d'avoir lieu d'ailleurs cette semaine.
Qui est enterrée au sud de Damas, effectivement, qui est un lieu de pèlerinage important du chiisme.
Mais les successeurs, les autres imams qui vont continuer la tradition et qui vont constituer un corpus doctrinal et spirituel, vont se tenir à l'écart prudemment, dorénavant, de la politique?
Oui, c'est-à-dire que dans la tradition, dans cette branche du chiisme qui va aboutir à la branche qui devient majoritaire, c'est-à-dire le chiisme duodécimain à 12 imams, effectivement, après Karbala, nous assistons à une sorte d'apolitisme, de quiétisme, c'est-à-dire que les imams, nous avons des textes extrêmement clairs et explicites là-dessus, vont interdire à leurs fidèles d'avoir une activité politique, c'est-à-dire soit de collaborer avec un pouvoir, soit de se rebeller contre un pouvoir jugé injuste. Donc à partir de ce moment-là, le chiisme, dans cette branche-là du chiisme, qui va devenir le chiisme majoritaire, devient quiétiste, entre guillemets.
Mais c'est pas les tentations quand même de révolte qui manquent chez les chiites qui se sentent persécutés. Et ici, là, vous racontez par exemple une histoire extraordinaire qui s'est produite à Bahreïn, où un petit état chiite théocratique s'est constitué à un moment. Il y a des révoltes et on fait appel à l'imam pour qu'il les soutienne. Mais l'imam ne les soutient pas.
Oui, c'est-à-dire c'est toute l'histoire tragique du chiisme. C'est que le chiisme, enfin, ou ce qu'on appelle la doctrine des Alides, des partisans de Ali, a été dès le départ minoritaire. Et le pouvoir, enfin, l'histoire a voulu que le pouvoir soit entre les mains de leurs adversaires historiques, surtout les Omeyyades. Donc cette histoire, surtout au début de l'islam, est une longue histoire tragique de répression féroce, de révolte armée, et donc qui déclenche d'autres répressions. Et c'est pour ça que, si vous voulez, tout le long de l'histoire, et malheureusement ça continue, avec bien sûr des périodes de trêve plus ou moins longues, les chiites ont été victimes de répressions, de massacres, de d'exil de toutes sortes.
Donc la consigne de l'imam, qui souvent réside à Médine, les tombes ont été rasées par les wahhabites au XIXe siècle, expliquez-vous dans votre livre « Qu'est-ce que le chiisme ?» Professeur Amir Moedzi, les imams invitent à la prudence. Voilà par exemple le message du huitième d'entre eux. Notez bien, le huitième, c'est Rida, il va falloir qu'on arrive jusqu'à 12. C'est une série de la télé iranienne qui lui est dédiée, avec 40 épisodes de 28 minutes chacun.
Communiquez à nos partisans que Hussein, fils d'Ali, quand il appela « Y a-t-il un partisan pour m'assister ?» ne s'éteindra jamais. Allez sur le chemin de l'islam comme si vous répondiez à cet appel. Ne négligez point vos actes d'adoration et ne perdez pas de vue les pauvres et les malheureux. Remettez ces bourses aux personnes de confiance dans les contrées de l'islam. Qu'elles soient dépensées pour les nécessiteux et encore mieux pour les orphelins et pour marier les jeunes. Que Dieu vous assiste et qu'il guide vos pas.
Quiétisme, repos politique, charité. Vous insistez sur le corpus sédimenté que ces imams successifs vont produire. Et vous dites, ça c'est une idée importante, professeur Amir Moedzi, qu'une sorte de nappe, une continuité en profondeur s'est constituée qui intègre le pré-islamique, les chiites y prêtent beaucoup d'importance, le Coran bien sûr, mais aussi après tous les enseignements des imams, ce qui fait que, comment dire, faut être prudent, le rôle du Coran est moins singulier, ce n'est plus un massif unique.
Oui, c'est-à-dire, il faut savoir que ce dont on a parlé jusque-là, c'est-à-dire là, le volet historique, n'est que la dimension extérieure du chiisme. Le chiisme est avant tout, je dirais, une spiritualité. J'ai toujours dit et écrit que le chiisme est la religion de l'imam, c'est-à-dire du guide spirituel, comme le christianisme est la religion du Christ. C'est-à-dire que l'imam, la figure du guide spirituel, constitue le véritable pivot autour duquel tourne la religion chiite. L'imam, dans sa dimension physique, historique, est le maître de ce que j'appelle l'herméneutique, c'est-à-dire celui qui détient le sens caché, le sens secret des Écritures. Et puis, dans sa dimension spirituelle, l'imam est une figure théophanique. C'est-à-dire que dans sa personne, il manifeste, non pas qu'il incarne, c'est peut-être là la différence entre le chiisme et le christianisme, l'imam n'est pas l'incarnation de Dieu, mais le lieu de manifestation des noms de Dieu.
Donc, est le Coran parlant, dites-vous. Alors je reviens à cette idée selon laquelle le Coran, qui chez les sunnites est un massif absolument incontournable, aurait une importance, comment dire, plus relative chez les chiites.
Oui, effectivement, et pour différentes raisons. C'est que pendant les premiers siècles de l'islam, les chiites, mais pas seulement, soutenaient que le Coran que l'on connaît, le Coran officiel appelé le Coran d'Osman, du nom du troisième calife, est une version falsifiée du Coran. Et donc, le Coran officiel, c'est-à-dire le Coran livre, posait problème à beaucoup de musulmans, y compris surtout les chiites. C'est-à-dire c'est au 4e siècle de l'Égypte, au 2e siècle, que finalement tous les musulmans vont accepter le dogme selon lequel le Coran que l'on connaît est une version fidèle des révélations faites à Mahomet. Mais avant cela, les chiites considéraient que c'est une version falsifiée et que c'est pour une des raisons pour lesquelles on appelait ce Coran-là le Coran silencieux. Alors pour retrouver sa parole, le Coran, c'est-à-dire la lettre, avait besoin des enseignements de l'imam, qui de ce fait est appelé le Coran parlant. Donc on retrouve le couple de saint Paul, la lettre et l'esprit, et la lettre étant le Coran, le Coran livre, et l'esprit étant l'enseignement de l'imam.
Mohamed Ali, Amir Mouazzian, vos derniers livres s'intitulent d'ailleurs, édition du CNRS, Coran parlant et Coran silencieux. Alors, ces imams retirés qui sont souvent obligés de vivre en résidence surveillée quand ils ne sont plus à Médine, ils sont à Samara, ils ont, au moment de chaque succession, des difficultés à l'assurer. Et dans leur vaste zone d'influence qui va de l'Irak natal à l'Iran central, avec Bahreïn et le Yémen, très important, des risques de schisme, évidemment, à chaque nouvel héritage se manifeste. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles le 12e imam décide de s'occulter? Vous savez, je vais vous faire une comparaison triviale, le Dalai Lama, là, il est quand même dans une situation de contradiction telle que la moins mauvaise solution qu'il trouve aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de successeur. C'est un peu la même chose pour le 12e imam?
C'est-à-dire, comme vous venez de le dire, à la mort de chaque imam, il y a des schismes. Il y a de nouvelles branches qui s'ouvrent dans le schisme. On a dit que pendant les trois premiers siècles de l'islam, il y a plus d'une centaine de sectes ou de branches ou de courants chiites. Et si vous voulez, dans la branche chiite qui va devenir dominante et majoritaire, à 12 imams, qu'arrive la question de l'occultation. Ce n'est pas le cas dans l'ismaïlisme, par exemple, qui a son imam encore vivant, dans la version d'Aga Khan ou chez les chiites zaïdites qui ont toujours leur imam. Mais dans le chiisme imamite qui va devenir la religion d'État en Iran, on va en reparler, donc le 12e s'occulte, il n'est pas mort selon la tradition, mais simplement occulté pour revenir à la fin des temps en tant que sauveur de la fin des temps.
Mais vous me direz que Jésus est occulté aussi.
Oui, et Élie aussi, c'est une notion antique.
Donc il reste à attendre dans son cœur, en reconstruisant son image, l'imam occulté. Voici ce qu'écrit le grand mystique chiite Al-Hajj, dont on va entendre la version chantée d'un poème. « Que de soif, je ne m'apprête à boire de l'eau, sans que je voie une image de toi dans ma coupe. Ah, si je pouvais, j'irais à toi, courant sur le visage ou marchant sur la tête. » Avec Mohamed Ali Amir Moedzi, nous parlons du chiisme et de ses incarnations successives. Al-Hajj, 10e siècle, le sommet de la mystique chiite, l'imam est occulté, on est dans l'attente, on cultive l'attente intérieure. Il faut regarder son cœur, hein, parce que l'imam peut peut-être se manifester dans son cœur.
Oui.
On peut même se concentrer sur une zone particulière du cœur.
Oui, effectivement, semble que ce soit une pratique extrêmement ancienne dans le chiisme, qui rejoint d'ailleurs certaines pratiques des christianismes orientaux, c'est-à-dire d'avoir la vision de la lumière de l'imam au niveau du cœur.
La prière du cœur de Jésus.
Oui.
Oui, mais d'accord. Ça, c'est la polarisation spirituelle qui est arrivée à sa maturité à cette époque. Al-Hajj va être exécuté en 920, si je ne me trompe pas. Là, on passe maintenant insensiblement à l'autre polarisation politico-théologique et juridique. Au Xe siècle, le chiisme, souvent persécuté, qui n'existait que dans la zone d'influence que vous avez décrite, voilà qu'il s'étend et qu'il a un rôle politique de Bagdad, où il domine, curieusement, jusqu'à l'Égypte fatimide, jusqu'à l'Afrique du Nord. C'est le siècle chiite, avec ses risques.
Oui, c'est le 4e siècle de l'Égypte, 10e siècle de notre ère. Donc, effectivement, les bouillies de chiites sont à Bagdad, au centre du califat abbasside. Les fatimides, autre famille chiite des ismaéliens, sont en Afrique du Nord et une partie de la Syrie. Les karmates, ces ésotéristes théocrates dont vous avez parlé, sont à Bahreïn et au sud de l'Iran, effectivement. Et ce qui va poser problème, si vous voulez, pour le chiisme qui nous intéresse, c'est-à-dire qui va devenir la religion d'État en Iran, c'est que ce chiisme au pouvoir est en contradiction avec le corpus de base, c'est-à-dire les traditions des imams, qui interdit aux fidèles d'avoir une activité politique. Donc, à partir de là, il y aura une première, peut-être grande rupture de la part des juristes théologiens au pouvoir à Bagdad avec le chiisme originel. C'est la naissance de ce que j'appelle la tradition rationaliste juridico-théologique, et qui va justifier effectivement le pouvoir des chiites.
Et dans le cas précis qu'on citait, Al-Hajj, l'exécution de Al-Hajj.
Oui, simplement, oui. Mais il faut aussi préciser que Al-Hajj était de formation chiite, mais à partir d'un certain moment, il rompt avec le chiisme pour avoir, disons, sa propre doctrine soufie ou mystique. Mais effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire que Al-Hajj est en quelque sorte le symbole de la confrontation de ces deux courant chiite, le courant spirituel ésotériste et le courant juridique politisé.
Les docteurs de la loi, ils sont peu à peu soumis aux demandes des princes et il faut qu'ils fabriquent de la jurisprudence. C'est-à-dire que la lettre qui, dans le courant spirituel, invite à aller vers le sens caché, là, la lettre, on lui demande de trouver des applications juridiques immédiates.
Oui,
c'est cas pratiques.
Ça fait partie des exigences du pouvoir, de l'exercice de pouvoir. Et puis, autre obligation, c'est-à-dire que le vide laissé par l'occultation, l'absence de l'imam va être comblée par la figure du juriste,
il
du docteur
compenser.
De la loi, pour compenser.
L'imam n'avait pas pensé à ça au moment de son occultation. 10e siècle, Bagdad, bon, les sunnites vont reprendre le pouvoir ici, là, et à Bagdad au 11e siècle. Vous avez parlé plusieurs fois du moment très important aussi, autre tournant capital, l'Iran des Safavides. Alors ça nous mène au 16e siècle, 17e siècle. Il y aurait eu l'équivalent d'un roi soleil, l'historiographie française. L'Iran Safavide va demander au chiisme d'être sa religion d'État.
C'est-à-dire que oui, au 10e siècle de l'Égypte, 16e de l'ère chrétienne, les Safavides arrivent au pouvoir en Iran et déclarent le chiisme, donc duodécimain, avec sa figure de l'imam occulté, comme religion d'État en Iran. À cause, peut-être, pour constituer un pôle opposé à un autre empire face à l'empire ottoman, qui est donc le champion du sunnisme. Et donc, les rois Safavides ont besoin de justifier leur politique religieuse et donc ils mettent sur pied quelque chose qui va devenir extrêmement important dans l'histoire du chiisme, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le clergé.
Avec un ministère des affaires religieuses,
oui,
déjà?
Oui, un ministère des affaires religieuses extrêmement puissant et extrêmement important. Et puis, le clergé qui, au début, dépend de la cour, mais avec l'arrivée des taxes religieuses qui sont réhabilitées pendant l'occultation, qui est une première historique dans le chiisme, le clergé va avoir un pouvoir économique extrêmement important et qui, avec le temps, va devenir une sorte d'État dans l'État.
Donc, et quand le roi disparaît, après il va être à Téhéran, après les Safavides, il y aura les Qajars. Quand le roi veut déclarer la guerre, par exemple, il va demander au clergé de dire que c'est une guerre juste. Le chiisme va être encore davantage embarqué dans le char de l'État.
Parce que, si vous voulez, pour une raison historique précise, c'est que selon le droit chiite traditionnel, la guerre sainte offensive est interdite en l'absence de l'imam. Et effectivement, ce processus de substitution de la figure de l'imam par le juriste fait que, effectivement, au XIXe siècle, pour la première fois dans l'histoire du chiisme, un membre éminent du clergé va déclarer la guerre sainte contre la Russie.
Quand on vous entend, on comprend que le roménisme, c'est le troisième tournant avec la religion d'État et le rôle des docteurs de la loi poussé au superlatif, à incandescence.
Oui, effectivement, si vous voulez, c'est l'aboutissement d'un long processus qui commence à Bagdad, comme on vient de le voir au Xe siècle, avec la prise de pouvoir du jurisconsulte, du docteur de la loi, et qui aboutit à, donc, qui est un processus de rationalisation qui va jusqu'à l'instrumentalisation et la politisation du religieux.
Alors, pas de commentaires supplémentaires, mais je vous attends pour nous expliquer, Mohamed Ali Amir Moedzi, que une religion pour durer doit peut-être avoir un poumon politico-pratique. Mais enfin, souvent, il empêche de respirer les populations. Elle doit avoir aussi un poumon spirituel qu'elle doit garder. Nous sommes à Jamkaran, près de Rome, la grande ville des docteurs de la loi. Là serait apparu le dernier imam et des jeunes filles de 17 ans répondent aux questions de Sonia Kronlund dans une grande traversée de France Culture il y a peu d'années.
Il est blanc, lumineux. C'est un homme grand, fort et courageux. Des cheveux noirs jusqu'au bas du cou. Des sourcils parfaits. Un grand front. Un nez allongé. Avec des épaules larges. Gentil. Très beau. Quelqu'un qui pardonne. C'est ce que j'ai vu dans mes rêves. Je pense qu'il avait un turban vert. Comme les religieux.
On dirait que vous êtes amoureuse de lui.
Je l'espère. J'aimerais être à ses côtés. Faire partie de ses proches. C'est une lumière tellement puissante que si on la compare au soleil, elle n'est rien.
Bien sûr qu'elles sont amoureuses, puisque le désir de Dieu, c'est la plus noble des jouissances.
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, la spiritualité est extrêmement vivante, toujours dans le chiisme. Et à cause justement de la figure du chiisme, le chiisme, même dans ses dimensions les plus populaires, est fondé sur une sorte de mystique, sur une religion de dévotion et d'amour à l'égard de l'imam. Et c'est pour ça, si vous voulez, c'est peut-être là la grande différence entre le chiisme et le sunnisme. Le sunnisme peut être considéré effectivement comme une religion de livre, religion du Coran, c'est-à-dire le Coran est l'intermédiaire idéal entre le croyant sunnite et Dieu. Dans le chiisme, c'est la religion de l'imam, du guide, du Coran parlant. C'est-à-dire du verbe de Dieu devenu homme. Et donc, dans le chiisme est plus qu'une religion de livre, est une religion d'un homme, de l'imam, qui est le lieu de manifestation de Dieu.
Oui, alors avec l'amour de l'imam, mais aussi la haine de l'ennemi, qu'est-ce qu'il va arriver à la fin du temps à l'ennemi ? Jésus est-il un ennemi ? Jésus va-t-il ressusciter ? Jésus va-t-il ressusciter pour rendre sa pureté au christianisme ou bien pour être anéanti à son tour?
Non, effectivement, c'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui complète le quiétisme ou l'apolitisme de ce schisme duodécimain, c'est là ces dimensions politiques et revendicatives qui est projetée à la fin des temps. C'est à la fin des temps que le Sauveur, le seul souverain juste, veut venir vaincre définitivement le mal. Mais il est accompagné de Jésus. Jésus est son principal compagnon pour rétablir la religion vraie et pure.
Merci à vous, Mohamed Ali Amir Moedzi. Je renvoie à votre petite histoire de l'islam chez Librio et à Qu'est-ce que le chiisme avec votre coturne Christian Jambet. C'est chez Fayard. Pauline Laverdure à la technique, Clara Garçon à la préparation et Jacques Sigal à la réalisation. Vous avez bien compris, Mathieu Vidard, la concentration dans le chiisme fixait une région du cœur.
C'est beau. Ouais. Et nous, c'est notre objectif de se concentrer dans la tête au carré, Jean. On va voir comment se concentrer dans un monde qui bourdonne d'informations.
Merci à vous, ce sera donc dans peu d'instants.